Sounou Assurance vous propose Priorité Santé et vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Notre corps est composé d'organes familiers, hein, ce que l'on désigne souvent comme nos organes vitaux, des os, des muscles, des tissus. Mais certains éléments de notre anatomie peuvent demeurer inconnus jusqu'à ce qu'on les découvre à l'occasion d'un diagnostic parce qu'ils se fragilisent, s'abîment ou s'infectent. C'est le cas pour la plèvre, cette membrane qui protège les poumons, décollement, inflammation, épanchement. Ces problèmes, ces réactions peuvent déboucher sur différentes maladies, pleurésie, pneumothorax, en cas de présence de liquide ou d'air dans la cavité pleurale, cet espace délimité par les deux couches de la plèvre. Ces affections se signalent par des douleurs au niveau du thorax, accentuées par la toux, par des difficultés respiratoires ou un essoufflement. La présence d'un volume inhabituel de liquide dans cette zone peut également être le symptôme d'un cancer localisé sur la plèvre, le mésothéliome, une maladie liée à l'environnement, à une exposition au long cours essentiellement dans le cadre professionnel à un produit classé cancérogène certain. Il s'agit de l'amiante. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons donc d'aborder ces différentes maladies, leurs symptômes, leur prise en charge et bien sûr, comme chaque jour, de répondre à vos questions. Maladie de la plèvre au pluriel, symptômes, pour en parler aujourd'hui avec nous, professeur Louis-Jean Coudert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de pneumologie et ancien chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes en région parisienne. Nous partirons pour le Burkina Faso tout à l'heure, retrouver le professeur Martial Ouédraogo, chef de service de pneumologie au CHU Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Avec lui, on parlera en particulier de la pleurésie tuberculeuse. Nous aborderons aussi la question du cancer de la plèvre, des conditions requises pour entamer une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle dans un pays comme la France. On posera la question au docteur Cédric Aubert, médecin du travail au sein de Becton Dickinson France, une entreprise privée qui est spécialisée dans le matériel médical. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Pour commencer, les fondamentaux, petite révision d'anatomie, ça fait toujours du bien. Hein.
Oui.
Oui. Professeur Louis-Jean Coudert, est-ce que la plèvre, ça fait à proprement parler partie de l'appareil respiratoire?
Alors oui, la plèvre, ça fait partie de l'appareil respiratoire et on en parle en général négativement, la plèvre. Mais en vérité, heureusement qu'elle est là. Parce que s'il n'y avait pas la plèvre, on vivrait mal. Parce que la plèvre, c'est un petit peu comme le liquide que vous avez dans vos articulations, dans vos genoux, par exemple, ou dans vos coudes. C'est ce qui permet que ça coulisse. C'est-à-dire que la plèvre, il y a deux feuillets. Il y en a un qui est collé sur votre poumon, qu'on appelle la plèvre viscérale, parce que viscère, l'organe, le poumon. L'autre qui est collé sur votre paroi thoracique, les côtes. Et puis, entre les deux, il y a un tout petit peu de liquide. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour une huile, mais c'est un peu comme le liquide 3 en 1, vous savez. Et donc, ça permet qu'à chaque fois qu'on gonfle ses poumons ou qu'on vide ses poumons, c'est-à-dire qu'on inspire et qu'on expire, ce qu'on fait tout le temps pour vivre, eh bien, ça marche très bien. Et il y a un petit turnover de ce liquide qui est en permanence sécrété et réabsorbé, exactement comme la salive. Alors, quand ça marche bien, on s'occupe de rien. C'est comme la salive. Et puis, la salive, c'est pareil, quand on va chez le dentiste, on s'aperçoit qu'on en sécrète beaucoup parce qu'on a l'air bête et qu'on crachouille. Et quand il y a un problème, eh ben, soit il y a de l'air qui est rentré, ça s'appelle un pneumothorax, soit pour une raison X ou Y, le liquide ne se réabsorbe pas, et à ce moment-là, il y a du liquide et ça s'appelle une pleurésie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème à régler.
Alors, il y a une difficulté juste dans la compréhension, parce qu'on dit la plèvre, en fait, ce sont deux feuillets, on pourrait le dire au pluriel, puis il y a une cavité, donc c'est un petit peu difficile de visualiser tout ça.
Vous avez raison, je qualifierais presque ça d'un abus de langage, d'une sursimplification, parce que normalement, la bonne expression devrait dire « c'est une maladie de la cavité pleurale », c'est-à-dire de l'espace entre les deux feuillets. Mais pour gagner du temps et par habitude, comme souvent le langage oral est un tout petit peu différent du langage écrit, on a tendance à dire la plèvre plutôt que les feuillets pleuraux.
Alors, on a bien compris, c'est la présence d'éléments inhabituels dans cet espace qui provoque, qui est à l'origine du problème, des maladies de la plèvre au pluriel. C'est pas forcément une maladie, c'est donc peut-être plutôt un symptôme, la pleurésie. Il y a plusieurs pleurésies.
Alors, il y a deux types de maladies pleurales principales. Celle où il y a de l'air qui rentre, qui s'appelle un pneumothorax, et celle où il y a du liquide, qui s'appelle des pleurésies. Les pleurésies, ce n'est pas une maladie en soi-même, parce qu'après, il y a tout un catalogue de maladies à rechercher. Et la démarche est donc double, à la fois de soulager le patient, et puis de rechercher la maladie causale. Alors, vous en avez abordé deux importantes dans votre introduction, qui sont la pleurésie tuberculeuse, les maladies tumorales dues à l'amiante, il y en a d'autres. Et puis, alors, le pneumothorax, lui, ne pose en général pas beaucoup de problèmes diagnostiques, mais plutôt parfois des problèmes de traitement.
Est-ce qu'il faut forcément une ponction pour connaître, dans le cas d'une pleurésie, l'origine précise, la cause de la maladie ?
Alors, je dirais que, sauf dans des cas rares, il est indispensable d'avoir une analyse du liquide pleural pour essayer de comprendre les mécanismes qui font que du liquide s'accumule. Il y a quelques circonstances où ce n'est pas nécessaire quand la cause est évidente. La cause évidente qui est reconnue ne nécessitant pas de ponction, ce sont des malades qui ont une insuffisance cardiaque où finalement, comme leur cœur ne marche pas très bien, l'hémodynamique, la circulation ne se fait pas très bien, il y a une suffusion du liquide, disons, ça s'accompagne souvent d'édème des membres inférieurs. C'est souvent des épanchements pleuraux des deux côtés, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus l'un que l'autre. Et dans cette circonstance, si le malade n'a pas de fièvre, on considère que c'est un symptôme témoignant de son insuffisance cardiaque. Donc on voit qu'à part ce cas, qui est relativement fréquent quand même, parce que l'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente, dans les autres cas, il faut faire une ponction dans un premier temps pour comprendre dans quel groupe de maladies il va falloir rechercher la cause de la pleurésie.
Et quand on a une pleurésie qui est vraiment importante, ça crée une compression du poumon. Si on regarde une radio, c'est clair, hein, l'espace est occupé.
Alors, c'est là où on s'aperçoit que la nature humaine est assez bien fichue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la taille de ce qui se passe. Alors, si, par exemple, un sujet de stature standard peut avoir 2 à 3 litres de liquide pleural anormal. Imaginez que vous ayez 2 litres de liquide articulaire dans votre genou, vous auriez un genou gros comme 3 citrouilles, vous apercevrez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a une deuxième notion, la tolérance, elle est fonction de la vitesse à laquelle la maladie se fait. Je vous invite à comprendre, par exemple, vous avez un accident, vous avez une côte qui casse une artère, en un quart d'heure, vous avez rempli votre cavité pleurale, vous allez très mal le tolérer. À l'inverse, vous avez une pleurésie qui est due à un médicament que vous ne tolérez pas, que vous prenez depuis longtemps, ça va mettre 2 mois à se constituer. Bon, on s'adapte petit à petit. Alors, il y a un point qu'il faut souligner, parce que je crois que beaucoup de gens s'inquiètent, c'est la douleur. Parce que la douleur, ce n'est pas un critère de gravité. Je dirais même qu'heureusement qu'elle est là, la douleur, parce que c'est ce qui fait faire le diagnostic, c'est ce qui permet de dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
C'est l'alerte.
Mais la douleur, il faut comprendre le mécanisme de la douleur, parce que la douleur, c'est ce qui inquiète le plus les malades, et c'est légitime. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas soigner la douleur. La douleur, c'est parce que, à chaque fois qu'on gonfle, qu'on vide les poumons, les deux feuillets frottent l'un sur l'autre. Donc ça fait mal, parce qu'ils sont un peu enflammés, parce qu'il y a quelque chose. Mais ça veut dire que l'épanchement est petit. Parce que si l'épanchement est important, qu'il soit liquidien ou Eric, les deux feuillets vont s'éloigner, donc vous n'aurez plus mal, ce qui ne veut pas dire que c'est moins grave, au contraire. Donc il n'y a aucun parallélisme entre intensité de la douleur et gravité de la maladie causale et gravité de la tolérance.
On va parler d'une autre maladie, d'une autre affection, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est le pneumothorax avec un témoignage. Et ce témoignage, c'est celui de Marie. Elle a 82 ans. Elle est atteinte d'une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive depuis 40 ans déjà. Et en 2016, subitement, Marie ressent une gêne associée à une vive douleur. Hein, on en parlait justement. Et elle raconte au micro de Raphaël Constant.
J'étais dans une réunion de présidents d'association. Et tout d'un coup, je n'arrivais plus à respirer. Donc au bout d'une heure, j'ai dit appeler les pompiers. C'était une impression d'étouffer, de ne pas trouver sa respiration, comme si j'avais un poids sur la poitrine et que j'allais mourir écrasée par asphyxie. si bien que les pompiers, quand ils sont arrivés, ne savaient pas si c'était le cœur ou les poumons.
Et alors, racontez-moi comment vous avez réagi à cette douleur.
Ben, au début de la douleur, comme je suis sous oxygène, j'ai augmenté l'oxygène. Je pensais que je manquais d'oxygène, que je respirais mal. Mais malgré mes efforts à respirer et à augmenter le débit d'oxygène qui pouvait aller jusqu'à 6 litres, alors qu'habituellement je ne suis qu'à 1 litre minute, ça n'a pas réussi à me sortir de l'angoisse. C'était une angoisse profonde. Et puis là, je suis partie. Je me suis évanouie.
Donc les pompiers vous ont transféré à l'hôpital. Comment vous avez été prise en charge ?
En service de pneumologie, l'interne a compris que je faisais un pneumothorax. L'interne, qui était nouveau, était accompagné d'un référent. Et la dame a dit au monsieur, tu piques entre la troisième et la quatrième côte. Bien sûr, j'étais un peu craintive. Mais quand il a eu piqué, je lui ai dit merci, parce que là, j'ai commencé à respirer. Parce que le pneumothorax, c'est le poumon qui est écrasé par la plaie. Donc, il ne peut plus respirer, il n'y a plus d'air dans le poumon. C'était une résurrection. Au bout de 48 heures, on a enlevé le pansement. Le drain, qui devait être mal fixé, est tombé. Et c'est là que j'ai refait un deuxième pneumothorax. Mais c'est pas tout. Au bout de 5 jours, on m'a dit « vous pouvez repartir ». Et quand j'ai voulu prendre mon conteneur qui contient l'oxygène liquide, qui était accroché à un porte-manteau, et là, en levant le bras, le pneumothorax est revenu. Et j'ai cru que j'allais mourir dans les bras de ma fille et sous les yeux de mon chéri. Le médecin m'a réallongé sur le lit. Et là, il m'a dit, c'est reparti, faut qu'on repique. Et là, on m'a transféré dans un autre hôpital pour me talquer. Alors, on met du talc entre les deux feuillets de la plèvre pour provoquer une irritation afin de souder les deux feuillets pour ne pas qu'ils se redécolle à nouveau. À ce moment-là, quand je suis arrivée dans l'autre hôpital, mon drain s'était bouché. J'ai refait un nouveau pneumothorax. Et à chaque fois, c'est toujours la même angoisse. On croit qu'on va mourir. Du vendredi au vendredi suivant, j'ai fait 4 pneumothorax.
Et Marie, après ces 4 pneumothorax, comment vous avez repris votre vie ? Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la vie presque normal ou est-ce que vous avez eu des séquelles ?
Une fois que le pneumothorax est enlevé, la situation redevient normale. Bon, ben maintenant, ça fait 5 ans et j'apprécie la vie. Tous les jours est pour moi une journée de bonheur parce que bon, ben, je suis vivante. Bien sûr, j'ai de l'oxygène 24 heures sur 24. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'a pas empêché de faire la course, la parisienne.
Qui est une course à pied à Paris, dans Paris.
Et bon, ben, j'ai mis 1h15 pour faire mes 7 kilomètres. Je pense que c'est tout à fait honorable avec de l'oxygène.
Est-ce que vous avez eu un traitement particulier après ces différents pneumothorax ?
Absolument pas. C'est juste un traitement mécanique. Il n'y a pas de traitement médicamenteux.
Est-ce que vous y pensez encore ?
Je ne regarde jamais derrière, toujours en devant. Le meilleur est toujours pour demain.
Témoignage recueilli par Raphaël Constant. Merci Marie. Professeur Louis-Jean Couder, pneumothorax chez une personne atteinte comme Marie d'une maladie respiratoire chronique. Est-ce que c'est fréquent ?
Alors oui, c'est fréquent, mais je voudrais d'abord souligner que Marie m'a l'air formidable. Ouais. Vous devriez l'embaucher comme consultante pour votre émission. Parce que, d'après ce que j'ai compris, elle a fait la Parisienne qui est une course. Donc bravo à Marie. Alors Marie, finalement, son cas, c'est celui d'un pneumothorax qu'on va qualifier de mal toléré. Alors, mal toléré, probablement pour deux raisons. Parce que de base, elle a une insuffisance respiratoire sévère, parce qu'elle nous a dit qu'avant d'avoir son pneumothorax, elle avait déjà une oxygénothérapie, c'est-à-dire de l'oxygène 24 heures sur 24, ce qui la met d'emblée dans les gens ayant une insuffisance respiratoire sévère. Et à nouveau, bravo à Marie de continuer à avoir une activité physique. Mmh. Et deuxièmement, ce sont des malades qui sont en général stables, sauf quand il arrive quelque chose. Alors le pneumothorax, dans ces circonstances, il est plus rapidement mal toléré que chez un jeune homme de 20 ans, parce que effectivement, il y a un petit peu de, comme elle le dit très bien, il y a un petit peu de mécanique à comprendre, qui n'est pas compliquée. C'est que la plèvre, normalement, la cavité pleurale, a une pression qui est négative. Ouais, elle est un petit peu négative, moins 5, moins 10 mm d'eau. Lorsqu'il y a de l'air qui rentre, petit à petit, la pression va augmenter parce qu'il ne fait que rentrer. Donc ça gonfle, c'est un peu comme une baudruche. Les côtes, elles, ne peuvent quasiment pas bouger. Donc sur quoi ça va appuyer ? Ça va appuyer sur le poumon, qui lui est mou. Le poumon, c'est tout mou, comme une éponge. Et puis si ça continue, le poumon, il va aussi appuyer sur le cœur. Et donc le cœur va être embêté, ce qu'on appelle la tamponade gazeuse. Donc tout ceci fait que lorsque le pneumothorax devient ce qu'on appelle la pression positive, elle le décrit, mais quasiment, parfaitement. Lorsque l'interne lui a mis une aiguille, elle dit tout de suite « je me suis senti mieux » et probablement qu'elle a dû entendre un petit « pssht » comme quand on appuie sur la valve du pneu de son vélo. Parce que, en clair, l'air a fui. Donc comme l'air a fui, la pression a diminué. Le pneumothorax a diminué, son poumon s'est réexpandu et il a arrêté d'appuyer sur son cœur. Donc oui, c'est fréquent parce qu'en général, je ne sais pas exactement le dossier de Marie, mais souvent ces malades donc, n'ont pas un poumon de très bonne qualité. Il y a souvent ce qu'on appelle des bulles d'emphysème, c'est-à-dire un poumon très fragile qui, à l'occasion d'efforts, et là à nouveau, elle est parfaite Marie, parce qu'elle nous le décrit, lorsqu'elle a soulevé son obus à oxygène, qui est un effort assez lourd, de manière inconsciente, elle a fait ce qu'on appelle un effort à glotte fermée, c'est-à-dire qu'elle a bloqué sa respiration, ce qu'on fait tous quand on soulève un truc lourd. Et donc, ça augmente un petit peu la pression, et clac, ça refait claquer des bulles. Donc oui, c'est assez fréquent, et c'est une cause qu'il faut absolument rechercher. Devant tout insuffisant respiratoire chronique qui s'aggrave ou qui a une douleur, c'est vérifier qu'il n'y a pas un pneumothorax, parce que sa vie peut être en danger, comme le décrit très bien Marie.
Et une autre illustration tout de suite, hein. C'est un témoignage apporté par un auditeur, Mamadou, qui nous écoute au Sénégal, on l'écoute tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Mamadou, j'ai 27 ans, j'habite au Sénégal, précisément à Thiès. J'ai été victime il y a 2 ans de cela, de pneumothorax. Et quand cela m'est arrivé, le médecin m'avait dit en premier lieu qu'il fallait me faire hospitaliser. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il est très vite revenu sur sa décision après un examen radiologique. Voilà, pour finir, il m'a prescrit des médicaments pour prévenir la constipation et les toux. Et il m'a conseillé de me reposer et de ne pas faire trop d'efforts physiques. Voilà, et quelques temps après, je ne ressentais plus la douleur. Ma première question va dans le sens de l'origine de la maladie. Qu'est-ce qui est réellement à l'origine de cela? Et ma deuxième question me concerne spécifiquement. Est-il possible que cela ressurge en moi? Voilà, donc je vous remercie d'avance, merci beaucoup.
Professeur Louis-Jean Coudert, Mamadou, 27 ans, 55 kilos, on va dire qu'il a peut-être plus le profil du patient concerné par le pneumothorax.
Alors, il a le profil de ce qu'on appelle le pneumothorax spontané, c'est-à-dire sans cause très évidente associée, à l'inverse de Marie. Alors, les points importants, c'est à nouveau la douleur, c'est ça qui l'a inquiété. D'après ce qu'il a dit, je crois qu'il est asthmatique. Mmh. Et donc ça, c'est un facteur important. Un facteur important parce qu'on avait déjà parlé de l'asthme ici à RFI. L'asthme pas bien équilibré fait des variations de pression dans les voies aériennes qui sont un facteur de risque de pneumothorax. Donc s'il a bien des médicaments à prendre, votre auditeur, Mamadou, c'est les médicaments de son asthme.
Mmh. Voilà. Au long cours, pour ne pas avoir
il faut, de pour crise. Éviter d'avoir des crises. Mmh. Alors deuxièmement, en ce qui concerne le pneumothorax lui-même, il n'y a pas de médicaments qui soit efficace. Après, troisièmement, il pose une question qui est importante, c'est la pratique du sport chez un sujet jeune qui a fait un pneumothorax. Il n'y a aucune contre-indication à la pratique du sport, sauf un, ce qui peut être discuté, qui est la plongée sous-marine, parce qu'il y a des différences de pression et la survenue d'un pneumothorax est dangereux. Enfin, quatrièmement, il nous disait, tiens, je suis embêté, je devais être opéré, puis je ne suis pas opéré. Chez un sujet jeune, en général, on regarde toujours la tournure des événements. C'est ce qu'a dû faire le collègue qui s'est occupé de lui. Parce qu'un sujet jeune, ce que je vous disais en entrée, va très bien tolérer un pneumothorax qui peut être gros. Mmh. Alors que Marie, qui devait être fatiguée, un petit pneumothorax peut être grave pour elle. Donc il faut, en général, se donner un peu de temps. Et heureusement, tout ceci s'est résorbé sans qu'il y ait eu besoin de la moindre intervention, d'après ce que j'ai compris.
Et on a une autre question. C'est une auditrice qui est en ligne, qui s'est réveillée tôt pour Priorité Santé, hein, puisqu'elle est en Haïti, dans les Caraïbes, à Jacmel précisément. C'est vous, Marie Ludy, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors,
bonjour, professeur.
Alors, très tôt chez vous, hein, en Haïti, Marie Ludy. Vous aussi, vous avez connu des problèmes avec votre plèvre au poumon droit. Expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez ressenti cette douleur très spéciale.
En effet, j'ai eu plusieurs épisodes de pneumothorax. Le premier, c'était en 2018. Un matin, je courais pour prendre un taxi et brusquement, j'avais ressenti une gêne respiratoire. J'avais une sensation d'oppression sur le thorax et ensuite, c'est comme s'il y avait un frein dans ma gorge qui m'empêchait de respirer. Mmh. Et par la suite, la radio a révélé que c'était un pneumothorax avec collapsus pulmonaire total du poumon droit.
Alors, on a posé quelque chose sur vous. Expliquez-nous quels soins vous avez été à ce moment-là apportés.
Tout de suite, on m'a fait une exfiltration à l'aiguille et ensuite, on a placé un drain thoracique. À ce moment-là, on pensait à un pneumothorax spontané et après quelques jours, je me suis rendue chez moi. Et ensuite, ça n'a pas cessé. Mm. C'était devenu récidivant. Presque chaque mois, j'avais un pneumothorax. Il m'a fallu presque 9 mois avant que je puisse faire le lien entre le pneumothorax et mes règles. Mm. Alors, entre-temps, j'ai eu...
Je vais vous interrompre, Marie Ludy, parce que vous dites le pneumothorax et les règles. Et là, j'imagine que derrière leur poste de radio, il y a de nombreux auditeurs qui disent « Mais c'est quoi le rapport exactement ?» Donc, la question, je vous la pose, professeur Louis-Jean Coudert, même si depuis ces années qu'on fait Priorité Santé sur RFI, on se rend compte que l'activité menstruelle des femmes, elle interagit sur énormément de choses dans l'organisme, donc également la santé pulmonaire.
Tout à fait. Et donc, ce que dit Marie est très intéressant parce que c'est une forme assez particulière de pneumothorax qui concerne les femmes en période d'activité génitale, qui survient quasi exclusivement sur le poumon droit. Et je n'ai pas fait attention si Marie était malade du poumon droit,
mais je crois que oui.
Et qui a tendance à la récidive. Parce que c'est effectivement en rapport avec l'activité menstruelle, et ceci souvent en rapport avec, peut être en rapport également avec des lésions d'endométriose, parfois au niveau de la plèvre, et il se forme au niveau du diaphragme. Alors le diaphragme, pour nos auditeurs, c'est un muscle qui sépare, si on fait simple, le thorax de l'abdomen, le ventre, qui est un muscle qui monte, qui descend, qui est un muscle comme un autre, qu'on connaît tous, mais qui, pour des raisons pas très claires, parfois, il y a comme des petits trous. Et ces petits trous laissent passer de l'air. Et cet air vient des pneumothorax. Crée des pneumothorax. Et donc, c'est souvent récidivant, c'est souvent difficile à soigner autrement que chirurgicalement. Parce qu'il faut aller, on va dire, obturer ces petits trous au niveau de la plèvre du diaphragme et inspecter tout ce qu'il en est. Et donc, c'est une cause très classique de pneumothorax. Récidivant de manière mensuelle chez la femme jeune du côté droit.
Marie Ludy, aujourd'hui, au niveau de la prise en charge, vous bénéficiez de quel type, justement, de suivi, d'accompagnement médical?
Ensuite, j'ai eu une double thoracotomie et 2 pleurodèses. Et suite à ces interventions, j'ai eu une pachypleurite. Donc, maintenant, depuis 2020, je prends le prednisone. Mmh. Ensuite, des exercices respiratoires. Mmh. Parfois, on me donne de la vitamine C et un complexe B qui comprend B1, B12 et B6. Mmh.
Et ce que disait tout à l'heure le professeur Louis-Jean Coudert concernant la santé gynécologique, est-ce que vous avez consulté un gynécologue? Est-ce que vous avez abordé, posé la question éventuellement de l'endométriose ou pas du tout?
Ah oui, oui. 2 ans auparavant, un médecin m'avait dit que j'ai de l'endométriose, mais c'est que c'était au cours d'une intervention chirurgicale.
Est-ce que les médecins ont fait le lien dans le diagnostic entre votre endométriose et ce problème de pneumothorax récidivant?
Oui.
Oui, donc il y avait bien ce lien. Professeur Coudert, qu'est-ce que vous pouvez dire à Marie Ludy en conclusion?
Je crois deux choses. Alors, premièrement, de manière un peu paradoxale, la rassurer, parce qu'il vaut mieux toujours savoir ce qu'on a en médecine. Mmh. Donc ça, c'est bien. Donc le diagnostic est fait, donc le traitement pourra être fait. Après, deuxièmement, comme elle l'a compris, il faut qu'elle ait une prise en charge mixte, c'est-à-dire par le collègue pneumologue qui s'occupe d'elle, et le ou la collègue gynécologue qui doivent travailler, on va dire, la main dans la main. Enfin, troisièmement, je crois qu'elle devrait rediscuter avec les médecins qui s'occupent d'elle de la pertinence de prendre de la prednisone au long cours, dont l'intérêt...
C'est un corticoïde.
Oui, c'est un corticoïde dont l'intérêt n'est pas clairement démontré. Enfin, on va dire même pas du tout. Donc, autant ne pas en prendre, parce que tous les médicaments ont malheureusement des effets secondaires. Et enfin, quatrièmement, parce que finalement, elle a été plusieurs fois opérée, d'après ce que j'ai compris, qu'elle s'astreigne à faire, soit elle-même, soit avec l'aide d'un kinésithérapeute, de la kinésithérapie respiratoire pour bien mobiliser sa cage thoracique et son diaphragme, ce qui est un point important.
Voilà pour cet appel. Merci infiniment. Très belle journée à vous, Marie-Ludie, à Jacmel. Professeur Louis-Jean Coudert, on va évoquer une autre affection de la plèvre avec un de vos confrères, les cancers, notamment le mésothéliome, maladie qui a une cause bien identifiée. En milieu professionnel surtout, il s'agit de l'amiante. Pour en parler, on vous retrouve, docteur Cédric Aubert, bonjour.
Oui, bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, vous êtes médecin du travail, si on a fait appel à vous, c'est parce que ce cancer de la plèvre, parfois également surnommé cancer de l'amiante, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle dans un pays comme la France. Est-ce que l'on sait, docteur, quelle est la durée d'exposition à l'amiante qui est susceptible de provoquer cette maladie, ce type de cancer ?
Alors effectivement, comme vous le dites, le cancer pleural, ou en tout cas les maladies liées à la plèvre secondaire à une exposition à l'amiante, représente la deuxième cause des maladies professionnelles. Et on estime en fait qu'une exposition, même faible sur une durée d'un an, peut être à l'origine d'un cancer pleural, donc d'un mésothéliome, probablement 20 à 30 ans après la fin de l'exposition.
Comment se fait-il justement qu'il y ait un tel délai, même si on sait qu'avec d'autres facteurs de risque, bien évidemment comme le tabac, c'est pas en fumant un an qu'on attrape, on va dire, qu'on contracte un cancer du poumon. Mais là, cette durée en décennies, comment ça s'explique ?
Alors en fait, c'est que le processus carcinologique, c'est-à-dire tous les processus cellulaires et inflammatoires qui vont entraîner l'apparition du mésothéliome pleural, se font sur une très très longue période. En fait, la fibre d'amiante a un effet pathogène qui est lié à sa forme de fibre, qui a une toxicité propre au niveau pulmonaire et pleural, et aussi au fait que ces fibres, elles vont persister dans l'organisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la biopersistance, pendant de très très longues décennies. Et donc, il y a tout un processus cellulaire et génétique qui va accompagner l'exposition de l'organisme à l'amiante et qui va entraîner in fine la dégénérescence de la cellule pleurale, la cellule mésothéliale, en mésothéliome.
Et est-ce que certaines professions, docteur Aubert, certaines professions, certains métiers, certaines activités sont particulièrement concernées ?
Alors oui, il faut savoir que l'amiante en France a été interdite en 1997. Donc on commence à voir apparaître de façon très très importante et probablement jusqu'en 2030 les cancers pleuraux des personnes qui ont été exposées avant les années 97. Et jusqu'à 1997, toutes les industries étaient concernées. L'industrie automobile, tête de frein, les industries navales et d'une manière générale, toutes les industries qui utilisaient des fours ou en tout cas qui travaillaient avec de la chaleur, puisque l'amiante est un très bon isolant. Aujourd'hui, la problématique va concerner essentiellement les entreprises de désamiantage et un petit peu les ascensoristes, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir intervenir dans des locaux ou sur des éléments qui peuvent encore contenir de l'amiante.
Parce que suite à la législation française d'interdiction, il a fallu aussi se débarrasser de ce véritable poison pour les poumons. Est-ce que le délai, ce sera ma dernière question, docteur Aubert, est-ce que le délai entre l'exposition et les symptômes ne complique pas les recours en matière de maladies professionnelles ?
Alors oui et non. Il faut savoir que les cancers, ou en tout cas d'une manière générale, les maladies de la plèvre liée à l'amiante sont reconnues par le tableau 30 de maladies professionnelles pour le régime général et par le tableau 47 pour le régime agricole. Ces tableaux-là prévoient un délai de prise en charge, c'est-à-dire un délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de maladies de 35 à 40 ans. Mais en fait, en cas de difficulté, il y a un recours au C2RMP, qui est le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui, lorsque l'exposition à l'amiante est statuée, va pouvoir aller positivement dans le sens de la reconnaissance. Et en parallèle de ces tableaux-là, il y a également le FIVA, qui est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui va venir compléter l'indemnisation des victimes et de leurs familles.
Merci infiniment, hein, docteur Robert, pour avoir répondu à toutes ces questions, pour votre éclairage. Cette question du diagnostic, professeur Louis-Jean Couder, en termes de prise en charge, intervenir, diagnostiquer, c'est important. Sur le cancer, est-ce que le tabagisme est un facteur aggravant ou non ?
Pour le mésothéliome, effectivement, l'association tabac plus amiante, ce n'est pas un plus un. C'est au contraire des facteurs multiplicatifs. Donc, effectivement, il faut absolument lutter contre le tabagisme. Je voudrais rajouter un point qui est important, c'est que, on va dire, la répartition de la notion d'exposition à l'amiante n'est pas du tout la même chez l'homme atteint de mésothéliome et chez la femme atteinte de mésothéliome en France. C'est-à-dire, comme le disait notre collègue, chez l'homme, c'est en général, dans près de 90% des cas, une exposition professionnelle. Parce que ce sont les métiers qui ont été cités. Mais il y a des mésothéliomes aussi chez les femmes, qui sont moins nombreux, c'est schématiquement trois quarts, un quart. Et ces femmes sont beaucoup moins retrouvées comme ayant été exposées, alors qu'elles ont un mésothéliome. Donc elles ont de l'amiante, parce que ça, au moins, c'est un truc qui est clair. Il n'y a pas de mésothéliome s'il n'y a pas d'amiante.
On peut alors elles le trouvent où dans
alors
leur
voilà,
vie
ben c'est, comme ça a été dit, c'est qu'il y en a partout. Il y en avait dans tous les isolants. Moi, par exemple, quand j'étais petit, on faisait cuire les toasts sur une espèce de truc rond avec un petit manche en plastique. Mais ça, c'était l'amiante, parce que c'est un très bon isolant.
Les planches à repasser,
les trucs qui isolaient les chauffe-eau. Et donc, ces dames, parce que ce sont surtout des dames, non, ont eu une exposition, on va dire, domestique. Alors ça, c'est compliqué, parce qu'elles n'ont pas d'exposition professionnelle, donc elles n'ont pas la même reconnaissance. Donc, je veux dire, quand on est clinicien, il faut faire attention. Parce que lorsqu'on voit une maladie pleurale hémorragique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'exposition retrouvée en discutant un métier qu'il n'y a pas inhalation de fil d'amiante. Il y a une inhalation qui peut être domestique.
Et on le dit, hein, la prise en charge des cancers s'améliore. Oui. Mais on va dire que pour un cancer de la plèvre, c'est particulièrement compliqué. Le pronostic, en général, n'est pas très bon.
Alors, attention, parce que les choses évoluent. Alors, attention. Alors, premièrement, oui. C'est une maladie tumorale qui pose un problème de par la caractéristique douleur. C'est comme je vous l'ai dit, la plèvre, dès qu'elle est malade, ça fait mal. Donc une des caractéristiques de ce cancer, c'est la douleur, qui peut être parfois très douloureuse. Et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui sont malades, ils le savent. Ce qui est très différent des autres tumeurs. Après, deuxièmement, le traitement, il est principalement médical, avec de la chimiothérapie, mais il y a des très gros progrès récents, parce que c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, une tumeur également inflammatoire. Et les immunothérapies antitumorales commencent à montrer une très bonne efficacité. Donc, ne baissez pas les bras si vous êtes auditeur et que vous êtes atteint. Il y a des progrès thérapeutiques récents, importants, dans le traitement des mésothéliomes.
Et on va partir maintenant pour l'Afrique de l'Ouest, hein, pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
En ligne avec nous, professeur Ouédraogo. Martial Ouédraogo, bonjour.
Oui, bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous êtes le chef du service de pneumologie au CHU Yalgado Ouédraogo. Quelle est la principale cause de maladie de la plèvre dans un pays comme le Burkina, du moins dans le service où vous exercez?
Alors, il faut déjà savoir que lorsqu'on a donc un épanchement dans la plèvre, que cet épanchement soit du liquide ou que cet épanchement soit de l'air ou des alentins, c'est pas tout le temps que la plèvre est malade. Alors donc, concernant les maladies de la plèvre proprement dite, la toute première cause dans notre contexte, c'est la tuberculose. Donc, on parlera en ce moment de pleurésie tuberculose. Généralement, lorsqu'on fait une ponction, le liquide que ça ramène est un liquide très clair. Alors, nous avons également en deuxième position les infections bactériennes non tuberculeuses, qui sont dites infections à germes banales. Et le liquide pleural, généralement, lorsqu'on l'explore, il est turbulent. On suit ensuite les cancers de la plèvre, qui peuvent être soit des cancers primitifs, donc on a parlé plus du mésothélium pleural lié à l'amiante, ou ces cancers, la plèvre secondaire, donc de colonisation extra-thoracique. bien sûr.
Alors, excusez-moi, professeur, parce que la ligne n'est pas très bonne. Je vais récapituler. De cause, donc, à la base, la tuberculose, des infections à germes, des cancers. Professeur, je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher ou vous reculer un peu de votre téléphone pour qu'on ait un son plus clair. En tout cas, on a un auditeur de Priorité Santé qui est en ligne avec nous. Il a des questions à vous poser parce que lui aussi, c'est un soignant qui exerce en République démocratique du Congo. On va lui donner la parole. Mamenga, bonjour.
Bonjour, Madame Caroline.
Alors, vous exercez près de Matadi, hein, c'est dans le sud-ouest de la RDC. Vous êtes infirmier et vous nous l'avez écrit dans votre message. Vous aussi, beaucoup de pleurésie. Comment ces cas sont-ils pris en charge?
Ah oui, à notre niveau, je suis infirmier, comme vous venez de le dire. Nous recevons beaucoup de cas de pleurésie tuberculeuse. Souvent, ce sont des cas qui est soigné aussi à l'hôpital général de Limé Kimpese, là où je suis. Mm-hmm. Et souvent, ces cas sont pris en charge avec le molécule antituberculeuse. Mm. C'est-à-dire ici, le traitement de la tuberculose. Et il y a aussi des pleurésies pyrulantes, mais souvent, ces cas-là, il y a beaucoup de risques de décès. Donc, ces derniers temps, ça fait pas trop longtemps, on a reçu le cas de pleurésie tuberculose. Il y avait deux cas et ces deux cas sont morts. Voilà.
Mamenga, quand ces patients atteints de tuberculose avec donc une manifestation sous forme d'une pleurésie arrive, le traitement, est-ce qu'il est pris en charge à 100% ou alors est-ce que les antibiotiques, hein, parce qu'il s'agit d'antibiotiques, il faut les prendre au long cours, on le sait, c'est pas simplement une semaine, là on va sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que c'est payé par la communauté ou est-ce que c'est payé par le patient?
Non, malade, le traitement de la pleurésie tuberculose se pris en charge comme la tuberculose proprement dite. Donc, le traitement est gratuit.
C'est très important de le dire. Hein. Ça veut dire que quand on a ce genre de symptômes, il ne faut vraiment pas hésiter à aller à l'hôpital. Ça ne coûtera pas d'argent, ça n'empiètera pas sur le budget de la famille. C'est important de le dire parce qu'il faut se soigner et parce que c'est une maladie très grave, comme vous l'avez souligné, Mamenga. Et je crois que vous aviez une question à poser à notre spécialiste, au professeur du Burkina, allez-y.
Oui, bien sûr, la première question, parce que nous recevons aussi ces malades-là, mais souvent, ces malades, après le traitement, ils partent, ils ne reviennent plus souvent. Mais ma question est celle-ci. Quelles sont les mesures préventives qu'on peut appliquer pour éviter le risque d'exposition aux maladies de la plèvre? Mmh. Et la deuxième question, les maladies de la plèvre peuvent développer aussi d'autres conséquences chez les personnes atteintes. Et s'il y en a, quelles sont ces conséquences?
Alors, on a parlé des différentes pathologies, qu'il s'agisse du pneumothorax, des pleurésies qui ont des raisons, on va dire, moins graves, du cancer. Maintenant, professeur Martial Ouedraogo, vous disiez dans votre contexte en Afrique de l'Ouest, cette persistance de la tuberculose avec des pleurésies tuberculeuses. Qu'est-ce qui peut être efficace en termes de prévention?
Alors, merci aux praticiens pour le travail qui est là-bas, de l'autre côté là-bas. Mm. Il a parlé d'une manière générale donc la prévention des maladies de la pleuve. Mm. Déjà pour les pleurésies pulmonaires, qui sont des pleurésies à germes banales, et ces pleurésies-là sont souvent consécutives à une infection pulmonaire mal prise en charge. Donc, il faut déjà diagnostiquer et traiter efficacement les infections pulmonaires par une antibiothérapie précoce, efficace et de durée suffisante. Mmh. Alors, pour les pleurésies tuberculeuses, alors, il faut savoir que ces pleurésies peuvent être consécutives à une atteinte parenchymateuse, c'est-à-dire la chair du poumon, comme elles peuvent être primitives. Alors, mais la prévention, c'est comme la prévention de toute tuberculose, c'est déjà le dépistage et le traitement précoce des cas contagieux. Mmh. Il y a également le dépistage et le traitement précoce des personnes, de la prise en charge précoce des personnes infectées par le VIH, parce que l'on sait aujourd'hui que l'infection à VIH est un puissant, donc, des facteurs de passage de la tuberculose infection à la tuberculose maladie. Mmh. Évidemment, à côté de ça, il y a la chimioprophylaxie. Donc, on donne des médicaments antituberculeux, par exemple, à des enfants donc, qui allaitent, dont la mère présente une forme contagieuse. Également, il y a une chimiothérapie discutée aujourd'hui sur les personnes vivant avec le VIH. Évidemment, à côté, il y a également la vaccination par le BCG, qui, en principe, protège contre les cas graves chez l'enfant et chez les personnes âgées. Voilà un peu ce qu'il faut comme mesure pour prévenir donc cette pluriasie. Évidemment, tous les pluriasies tumorales, c'est la prévention des cancers. Que ces cancers-là soient primitivement au niveau de la plèvre, comme le mésothéliome, donc la non-exposition déjà à l'amiante, et puis bon, d'une manière générale, les facteurs favorisant les cancers, comme la cigarette et j'en passe. Et étant donné que le cancer peut être primitivement localisé au niveau de la plèvre, comme la localisation pleurale peut être secondaire à une localisation extratographique.
D'accord, on a bien entendu, professeur Martial Ouedraogo. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces clarifications. On remercie aussi Mamenga. Je pense que vous avez entendu ce qui est essentiel, dépistage VIH, ne pas arrêter un traitement entamé prescrit par un médecin, et puis surtout voir dans la famille s'il y a une contagion, bien aller repérer les cas pour éviter qu'il y ait une propagation au niveau communautaire. On vous remercie tous les deux au Burkina, en RDC. Je vais vous donner la parole pour le mot de la fin, professeur Louis-Jean Coudert, vous vouliez réagir?
Écoutez, je crois que le collègue a bien tout résumé, c'est-à-dire qu'on voit que les maladies de la plèvre, il faut souvent rechercher des facteurs associés, l'amiante d'un côté, pour la tuberculose, qui est quand même un problème qui demeure un problème majeur de santé publique dans le monde, mais majeur. La co-infection avec le VIH en Afrique est un point très important, et je crois qu'il a insisté avec raison sur la prévention, c'est-à-dire, et sur l'éducation. Et notamment pour la tuberculose, mais notre collègue le sait évidemment mieux que nous, c'est-à-dire que souvent les malades arrêtent leur traitement parce qu'ils vont mieux au bout de 2 à 3 mois, ce qui est un facteur de survenue d'après de tuberculose résistante. Donc l'éducation des patients, je suis très content de voir qu'en RDC, la prise en charge est entièrement par les autorités, donc gratuite. Je crois que c'est vraiment un point majeur.
Par le Fonds mondial, oui.
C'est absolument majeur, parce que sinon, on court à la catastrophe.
C'est essentiel, justement, et de faire passer ces messages tout simples, ne pas arrêter le traitement et chercher les cas communautaires, ça aussi, c'est essentiel.
Et rechercher les cas familiaux et les cas contagieux. Et ne pas fumer.
Ne pas fumer, ça c'est pour toute la santé du poumon et la santé en général.
Absolument.
Hein, la santé du cœur, la santé du cerveau. Merci infiniment pour votre éclairage. On était parti d'une partie du corps assez mystérieuse et j'espère qu'on aura éclairé les auditeurs sur cette plèvre. Professeur Louis-Jean Coudert, merci d'avoir accepté l'invitation de Priorité Santé aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes, en région parisienne. Bien manger, rester en pleine forme avec vos conseils. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Coup de projecteur, si vous le voulez bien, sur un aliment bien connu de nos auditeurs. Il s'agit du gombo. On va partir par le commencement tout simplement. Le gombo, Stéphane, qu'est-ce que c'est?
Alors, le gombo, c'est une plante de la famille des Malvaceae, composée de différentes espèces qui sont pour une partie cultivées, qui ont été domestiquées, tandis qu'une autre partie reste encore totalement sauvage. Alors la plante se présente sous forme d'un buisson qui est assez grand, qui peut atteindre dans la majorité des espèces jusqu'à 2,50 m. Alors il est cultivé et utilisé dans l'alimentation humaine depuis l'Antiquité, en Égypte et en Inde au démarrage. Et du bassin du Nil, il s'est progressivement diffusé à toute l'Afrique et de l'Inde, il s'est diffusé à toute l'Asie. Et c'est pour ça qu'on le retrouve maintenant sur une grosse partie des différents continents. Alors son expansion s'est poursuivie dès le XIIe siècle avec sa diffusion en Europe. Avec le commerce triangulaire, il sera ensuite introduit au XVIIe siècle en Amérique, en Guyane, à Haïti et dans de nombreux autres territoires. Alors, ce sont principalement les fruits du gombo qui sont utilisés pour l'alimentation, même si les feuilles sont aussi consommées dans certains pays avec la fameuse feuille sauce gombo. Ces fruits présentent une forme qui est conique allongée, hein, cette forme très caractéristique du gombo avec une extrémité pointue qui mesure entre 4 et 15 cm suivant les variétés. À l'intérieur du fruit, il y a des cavités, en général pentagonales ou hexagonales, qui contiennent des petites graines molles, c'est elles qui sont comestibles. Aujourd'hui, en plus de son rôle dans l'alimentation humaine, le gombo est aussi utilisé dans la production de différents produits cosmétiques.
Alors après les sciences nat et la biologie, on va passer à table si vous le voulez bien Stéphane. C'est quoi les caractéristiques nutritionnelles du gombo?
Alors, le fruit, qui est la partie de la plante qui est la plus consommée, possède une valeur nutritionnelle très intéressante. En premier lieu, ce légume a un apport calorique relativement faible. Il se situe autour de 30-35 kilocalories pour 100 grammes, s'il est cru ou bouilli. Le kombu est un fruit qui contient peu de glucides, c'est-à-dire de sucre, peu de protéines et peu de lipides, c'est-à-dire de graisse. Par contre, il contient une quantité très intéressante de fibres, avec un peu plus de 3 grammes pour 100 grammes, ce qui est très très bien. Il est aussi une source très intéressante de vitamines et de minéraux. Il apporte notamment de la vitamine B, en particulier les B2, B3, B6 et B9, mais aussi de la vitamine A, de la vitamine C et de la vitamine K. Il apporte aussi des minéraux comme le fer, le calcium, le magnésium, le cuivre et le potassium. Enfin, il contient une quantité très intéressante d'un antioxydant de la famille des flavonoïdes qu'on appelle la quercétine. Alors la feuille de gombo, elle, qui est consommée dans différentes régions du monde, présente comme le fruit un apport en énergie faible et un apport en fibres, en vitamines et en micronutriments très intéressant. Donc ne pas la sous-estimer et c'est important aussi de consommer la feuille en sauce.
Et bien expliquer alors les bénéfices, mais peut-être aussi les risques pour la santé de la consommation de gombo.
Alors en premier lieu, l'apport nutritionnel riche et varié en fibres, en vitamines, en minéraux du gombo, enfin un aliment possédant une forte valeur ajoutée pour assurer une alimentation qui est équilibrée et diversifiée, qui est central pour un bon fonctionnement de notre organisme et pour notre santé. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, il apporte une quantité importante de fibres, dont une gomme qui s'appelle la mucilagineuse, qui gonfle au contact de l'eau et qui donne cette texture visqueuse au gombo. Et ces fibres, grâce à leur pouvoir de rétention d'eau, vont permettre de réguler et d'améliorer le transit intestinal, tout en apportant une sensation de satiété, c'est-à-dire un effet coupe-faim. Elles vont aussi jouer un rôle positif sur le métabolisme des graisses dans notre organisme. Enfin, le gombo apporte une quantité importante de quercétine, qui est un antioxydant qui va permettre de protéger nos cellules contre l'effet des radicaux libres et ainsi prévenir de nombreuses maladies comme certaines formes de cancer, les troubles cardiovasculaires ou encore certaines infections. Alors, il n'y a pas d'études qui mettent en évidence un effet négatif de la consommation de gombo. C'est assez rare, donc pour le moment, tout est positif. Cependant, il faut faire attention, le gombo n'est pas un médicament contre le diabète ni contre l'hypercholestérolémie, on peut le lire sur de nombreux sites internet. Donc attention, très bon pour la santé, très bon en nutrition, mais ce n'est pas un médicament.
Alors justement, par rapport à toutes ces données, hein, tout ce que vous venez de nous dire, Stéphane, comment est-ce que vous conseillez de consommer ce fameux gombo ?
Alors tout d'abord, les fruits du gombo peuvent être consommés crus. Ils peuvent aussi être consommés cuits, sautés à la poêle ou bouillis en sauce. Les feuilles peuvent être utilisées pour préparer une sauce verte qui pourra accompagner une base céréalière comme du riz ou du mil, par exemple. Il est donc possible, dans la même semaine, de multiplier son utilisation pour profiter pleinement de ses bienfaits. Il peut être consommé le midi en sauce, en alternant la sauce issue du fruit et celle issue des feuilles. Le soir, il peut être consommé cru, en salade, en ajoutant une salade verte et des tomates. Et pour les personnes qui vivent dans une zone géographique présentant une diversité alimentaire qui est faible, une consommation très régulière de gombo va permettre d'apporter une très bonne source complémentaire de fibres, de vitamines et de micronutriments. Donc, consommer du gombo régulièrement, varier les formes pour avoir un plaisir maximum et vous aurez un aliment santé de très bonne qualité.
Merci beaucoup hein, Stéphane Besançon et excellente journée à vous. À bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la fabrique, la réalise. Louise Calédec, Wendell Lavina, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, nous allons parler de l'infertilité, difficulté pour concevoir un enfant, explication, quelles prises en charge médicales sont possibles. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.